cette affaire ne fait que commencer. Pourquoi a-t-elle été aussi forcée et contrainte? Parce que nous sommes dans un scénario à la russe. Le pouvoir a décidé de prendre une proie et de l'offrir sur un plateau à un de ses amis, M. Frérot, le patron de Veolia. Ils sont allés faire des campagnes pour se partager les dépouilles de la France. Et nous sommes dans un scénario de distribution de privilèges à une petite oligarchie.
Là, là, alors ça, ça fait partie des sons forts de la semaine. C'est une accusation de taille, ça tape très fort dans cette affaire Veolia-Suez. Voici Arnaud Montebourg, l'ancien ministre qui avait juré qu'il ne parlerait plus que du miel et des abeilles. Il renfile la marinière au nom du patriotisme économique. Et il n'y a pas qu'à gauche qu'on hausse la voix sur Veolia-Suez. À droite aussi, on entend des critiques et même dans la majorité, des doutes. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Ce que veut Veolia, c'est grossir, ça on a compris. Ce que Suez ne veut pas, c'est se faire démanteler, on a compris aussi. Ce qu'Engie, qui vend sa part de Suez à Veolia, veut, c'est financer sa nouvelle stratégie. Bon, jusque-là, ok. Maintenant, ce que veut l'État, on n'est pas sûr de comprendre. Fin août, le Premier ministre dit oui, une opération qui a du sens. Frérot, le patron de Veolia, c'est un patron, je cite, « sérieux et patriote ». Et puis on a obtenu des garanties, entend-on, extrêmement fermes sur l'emploi. Et en octobre, eh bien l'État dit non. Le premier actionnaire d'Engie, 22% du capital, quand même, il dit non. Et là, rien. Engie passe outre la volonté de l'État. Donc ce matin, dans ce grand flou, où il y a un loup, juste deux questions. L'État, actionnaire minoritaire, à quoi ça sert? Et dans cette affaire, est-ce que l'État est assez clair?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Mag Écho. Il est réalisé par Lauriane Toulmon et par François Audouin ce matin. Valentin Pérez est attaché de production et à la technique, c'est Alexandre Chénet qui nous accompagne. Bonjour à vous les débatteurs. Je salue Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et bonjour à vous Laurent Bigorne, bonjour de l'Institut Montaigne.
Masqué.
Masqué,
bonjour.
Oui, est-ce que ça s'entend? J'espère pas trop, mais nous sommes tous masqués en effet dans le studio. Est-ce que, alors on a vu que ça a monté en intensité, en pression, cette affaire Veolia-Suez. Là, on a entendu Arnaud Montebourg qui fait quand même une énorme accusation. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Bigorgne? Économiquement, à tout le moins, qu'est-ce qu'on peut en penser?
Oui, on va laisser la politique de côté un instant, mais moi j'en pense que l'État, quand il détient des parts et des positions minoritaires dans grandes entreprises comme Veolia, mais c'est le cas d'autres grandes entreprises qui ne relèvent pas concrètement ou directement de la notion de service public comme la Poste ou cette maison ou comme la SNCF, eh bien, l'État se retrouve dans la plus mauvaise des situations, c'est-à-dire de celui qui paye mais qui ne gouverne pas ou qui a le sentiment de gouverner. Et quand arrivent des problèmes ou quand arrivent
le roi est nu, quand arrivent des
situations très difficiles à trancher, le roi est nu, il est minoritaire au conseil d'administration par rapport éventuellement à d'autres forces en présence, et on se retrouve dans des situations où à la fois tout le monde va se retourner vers le gouvernement en disant c'est de votre faute, mais qui n'en peut mais.
Christian Chavagneux, est-ce que vous avez une lecture de cette affaire très
grande,
de ce dossier?
Je suis comme vous, Alexandra. Moi, je comprends rien du tout au rôle de l'État. En même temps, quand vous avez 20% d'une grande entreprise, vous êtes quand même un acteur financier extrêmement fort. Et ma crainte, c'est que les accusations d'Arnaud Montebourg, elles font écho aux accusations d'un livre que vraiment, je conseille chaudement de lire, c'est de notre confrère Laurent Mondu chez Mediapart, qui s'appelle Privatisation, et qui nous décrit, alors je ne sais pas s'il a raison, je vous livre juste son analyse, un affairisme d'État.
Non.
Donc est-ce qu'on est dans cette configuration aussi? Je ne sais pas.
En tous les cas, moi, mon avis, c'est qu'on va avoir beaucoup de temps pour décortiquer l'affaire, parce qu'il y a ces coups de théâtre sur coups de théâtre, encore hier soir, avec la justice qui stoppe pour l'instant l'opération, mais qui ne l'annule pas. Donc, on va suivre ça. Je crois qu'on en a pour 2 ans, Veolia-Suez, avec aussi tout ce qui est anti-concentration, etc. Ça va nous laisser du temps pour mieux comprendre le rôle de chacun. Votre débat, les débatteurs, ce matin, on a des chiffres sur la pauvreté. On a aussi ce deuxième bilan qui a été fait par des économistes sur la baisse de l'ISF. Les promesses sur l'économie, à quoi ça a servi? On a des chiffres sur les inégalités. Nous allons donc parler de l'urgence sociale. Et puis dans la suite du programme du Mag Écho, l'urgence économique. Ce matin, ensemble, nous allons faire un zoom sur une arme anti-chômage qui n'existait pas et qui commence à peine à se mettre en place. Ça s'appelle l'activité partielle de longue durée. C'est l'État qui finance en partie, mais en grande partie. Comment est-ce que les entreprises sont en train de s'en emparer? Est-ce qu'on peut espérer que ça marche? Vous entendrez le reportage de Caroline Pommès. Et puis nous sommes à 48 heures du débat sur le budget à l'Assemblée. Il y a les baisses d'impôts pour les entreprises, il y a toute la bataille qui s'annonce sur les contreparties. Notre invité ce matin, c'est le patron des patrons, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Il sera dans ce studio en direct à 9h45. Et bonjour à vous Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Hervé vous a écrit à ma vie au boulot.
Oui, c'est un habitué des bars parisiens, il s'inquiète pour les serveuses. Oui, je dirais pas un pilier de bar.
C'est joliment dit Hervé, bonjour.
Il s'inquiète en tout cas pour les serveuses et les serveurs quand les bars ferment. Le pourboire est-il pris en compte dans le chômage partiel?
Ah bah on y revient au chômage partiel. Non mais grosse question en effet, puis vous nous direz combien ça représente dans leurs revenus. Allez, rendez-vous juste avant 10h, mais tout de suite le débat, pauvreté, inégalité. Comment répondre à l'urgence sociale?
D'ici la fin de l'année 2020, la France comptera 1 million de personnes en plus vivant sous le seuil de pauvreté dite monétaire, conséquence de la crise économique qui se juxtapose à la crise sanitaire.
C'est des gens qu'on ne connaissait pas, beaucoup, qui travaillaient ou qui travaillent encore d'ailleurs.
Véronique Fayet.
Et qui était dans une situation de précarité et qui bascule dans la pauvreté.
Présidente du Secours catholique.
Par exemple, quelqu'un qui avait un CDD. Le CDD s'arrête, donc il n'a pas assez cotisé pour avoir le droit à l'assurance chômage. Par contre, il a gagné trop d'argent pour avoir droit au RSA. Donc il doit attendre 3 mois sans aucune ressource. Donc ça nous montre que notre filet de protection sociale a beaucoup de trous.
Les 5 à 7% les plus pauvres, dans toutes les mesures sociaux, fiscales de ce gouvernement avant la crise du Covid,
Christophe Robert,
ont vu leur pouvoir d'achat baisser.
Délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
C'est-à-dire qu'il y a eu un recadrage du gouvernement après la crise du mouvement des Gilets jaunes, qui s'est réorienté vers des aides ou des fiscalités en baisse pour les classes moyennes inférieures, les catégories modestes. Mais les 5 à 7%, ce sont les grands oubliés de ce quinquennat.
Nous avons fait un certain nombre de gestes pour les plus précaires qui sont indispensables.
Bruno Le Maire.
L'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire.
Ministre de l'économie.
La réduction du ticket universitaire de un peu plus de 3 euros à 1 euro. Ma responsabilité, c'est d'abord l'emploi. Le taux de pauvreté en France, il reste évidemment trop élevé dans un pays aussi riche que le nôtre, près de 14%. Je veux simplement rappeler que le taux de pauvreté des chômeurs, il est de 37%. Et que donc la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est qu'il y ait des emplois pour tous les Français.
Je pense qu'il faut un chèque relance.
Laurent Berger.
On ne peut pas considérer que vivre dans un pays avec 10 millions de personnes en situation de pauvreté, c'est quelque chose de normal.
Secrétaire général de la CFDT.
Et donc il faut faire un effort supplémentaire par l'augmentation du RSA. Le RSA aujourd'hui, c'est 550 euros. Nous, on réclame que ce soit au moins 60% du salaire minimum. Ça permettrait de monter de 100 euros le RSA. Il faut instaurer un RSA pour les jeunes.
Moi, je m'inquiète que dans le plan de relance du gouvernement, il y ait si peu pour soutenir les plus précaires.
Adrien Quatennens.
0,8% du budget, ce n'est rien.
Député, la France Insoumise.
Et il y a un lien entre l'extension de la pauvreté et l'hyperaccumulation entre quelques mains. Vous avez peut-être vu ces chiffres ahurissants qui montrent que de mars à mai, les 25 plus grandes fortunes du monde ont accru leur fortune de 255 milliards d'euros, 13 000 euros par seconde. Vous savez, c'est comme le disait le poète Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches.
Christian Chavagneux, vous qui appréciez la littérature, je me tourne vers vous et la photographie. Bon, on a eu des chiffres sur la pauvreté dans le monde et en France. Est-ce que vous nous faites la photo?
Oui, c'est un sujet qui intéresse tous les pays. C'est la Banque mondiale donc qui nous a donné un petit bilan pour 2020 et les effets du Covid. Depuis 1990, la pauvreté dans le monde recule. C'était une évolution structurelle. Or, ça fait 2 ans qu'il y a 2 évolutions structurelles qui vont à l'inverse. La multiplication des conflits armés et la pauvreté liée au réchauffement climatique. La pandémie va faire remonter pour la première fois depuis 30 ans le nombre de pauvres. Alors, pour la Banque mondiale, dès que vous avez moins de 1,90$ par jour, vous êtes considéré comme pauvre. Plus 90 à 115 millions de pauvres dans le monde, dit la Banque mondiale. C'est la première fois depuis 30 ans que ça va de nouveau augmenter. En France, la même chose. Selon les associations, on l'a entendu dans le zapping, 1 million de pauvres en plus, a priori dû au Covid. On le voit à 2 signes. D'un côté, vous avez par exemple le Secours populaire qui distribue de l'aide alimentaire. 45% des gens qui viennent, ils les ont jamais vus avant. C'est des gens qui n'ont pas besoin de l'aide alimentaire, qui d'un coup en ont besoin. Et deuxième indicateur, les départements qui nous disent que fin août, plus 9% sur un an de demande de RSA. En moyenne, c'est plus 17% en Corrèze, par exemple. Donc, on retrouve qui? Des étudiants, des jeunes en emploi précaire, des femmes seules avec enfants, des étrangers, les pauvres habituels, mais ceux qui étaient sur le fil et qui tout d'un coup basculent. Mais aussi des chauffeurs Uber, des gens qui travaillent dans les hôtels, nouveaux pauvres.
C'est le nouveau visage de la pauvreté. Donc 1 million, disent les associations, 1 million de nouveaux pauvres qui s'ajoutent à une population déjà de plus de 9 millions de personnes. C'est ça, Laurent Bigorne, oui, qui était touché.
C'est effectivement la photo et c'est pas un bilan dont on peut être fier. Il y a eu mardi la publication de la note conjoncturelle de l'INSEE qui s'appelle « Une économie diminuée ». Je la cite parce que, au fond, elle est un peu en contraste avec ce que nous disent les associations, puisqu'on nous dit « Les destructions d'emplois sont nombreuses sur l'année, mais moins élevées que ce qu'on pourrait attendre dans une récession de près de 10% de la richesse nationale ». Et donc il y a une espèce de dissonance entre, d'un côté, les chiffres macro et ce que nous disent les associations, y compris parce que parmi ces nouveaux pauvres ou parmi ces gens qui vont être en situation précaire, et c'est souvent les plus précaires qui étaient sur le fil, qui vont aller vers plus de précarité, il y a aussi quantité de gens qui, par exemple, n'étaient pas déclarés ou des gens qui travaillaient au noir, par exemple. Mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête, j'allais dire, l'ensemble du paysage. On n'a jamais dépensé autant dans cette crise pour soutenir le revenu des salariés. Je vous rappelle que le chômage partiel, c'est 22 milliards à date de dépenses, et on envisage d'aller jusqu'à 31 milliards sur l'année, que le niveau des dépenses publiques n'a jamais été aussi considérable. Alors, c'est vrai que ce pourcentage est aussi dû à la contraction du PIB, mais on va sans doute atteindre à la fin de l'année 65% de dépenses publiques, c'est-à-dire le niveau d'Angleterre des années 70. Le niveau d'Angleterre des années 70.
Ah, c'est pas un débat sur les dépenses publiques, attention.
Et par ailleurs, de nombreuses mesures ont été prises. Et des mesures très, j'allais dire, très concrètes. C'est la simplification du versement des aides au logement, c'est, on en a parlé la semaine dernière, ma prime Rénov, c'est le ticket de restaurant universitaire qui est passé de 3 à 1 euro, c'est le renforcement des places d'hébergement d'urgence, il y en aura plus de 10 000 qui seront créées dans le budget 2021, c'est l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et des personnes handicapées, c'est l'augmentation de l'allocation scolaire, donc attention, dans un contexte où on fait déjà énormément dans le système et dans l'état-providence à la française, avec des dépenses de prestations sociales qui sont 32% du PIB contre une moyenne européenne de 27,5%. Non seulement on fait déjà beaucoup, mais on a encore fait beaucoup plus dans cette crise.
Alors, là c'est important parce que Laurent, il est en train de nous faire en réalité, oui, la photo des mesures immédiates qui concernent les plus démunis. Il nous dit aussi qu'il y a une action plus globale pour soutenir le salaire et le pouvoir d'achat, même si parfois on comprend bien que les Français se disent « Ah mais moi, la faible baisse du pouvoir d'achat, moi j'ai une autre sensation, mais bon ». Et puis, Laurent nous dit qu'il y a une action plus globale dans les dépenses publiques pour aider les plus pauvres. Est-ce que ça vous paraît correct comme description?
Salaire et pouvoir d'achat, c'est bien pour ceux qui ont un boulot, mais là, on parle des gens qui sont un peu plus marginalisés et qui n'ont pas un travail de manière régulière et qui n'iront pas à l'activité partielle ou à l'activité partielle de longue durée. Ils n'auront pas cette chance-là. Non, la pauvreté, évidemment, l'explosion de la pauvreté de cette année, c'est dû au Covid, mais c'est juste le prolongement d'une tendance. On a eu les statistiques de l'INSEE le mois dernier, qui sont le résultat de la politique antisociale du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'après une stabilisation sur plusieurs années, 2018, c'est la première année où on a de nouveau une augmentation des pauvres. 400 000 pauvres de plus en 2018. Je rappelle en France qu'on est pauvre quand on gagne moins de 1063 euros par mois. Avec 1000 euros par mois, franchement, on ne fait pas grand-chose. C'est 14,7% de la population qui est pauvre selon ce critère. Pourquoi ? Eh bien, l'INSEE nous dit qu'il y a deux raisons principales. La première, et la plus importante, c'est la baisse des allocations logement, décidée par Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe. Les premières victimes, c'est les mères qui élèvent seules leurs enfants. Le taux de pauvreté a augmenté beaucoup plus. On est à 30% de taux de pauvreté pour ces mères seules qui dépendent beaucoup de l'aide au logement, qui ont vu leur aide au logement baisser du fait de la décision du gouvernement Macron. Plus, deuxième chose, on recommence à voir quelque chose qu'on ne voyait plus en France. Et ça, c'est pas la faute de Macron, c'est le résultat de toutes les réformes des retraites qu'on a depuis des années et des années. C'est que notre système de retraite, il est équilibré. Pourquoi ? Parce qu'on ne cesse de réduire les pensions. On recommence à voir en 2018 la chose qu'on ne voyait plus en France depuis des décennies, des retraités pauvres.
Laurent Bigorne, politique antisociale d'Emmanuel Macron, mais dès auparavant une politique qui nuisait aux retraités.
Je ne serai ni le procureur ni le défenseur de ce gouvernement, ce n'est pas mon rôle, mais une politique antisociale quand il y a 33 points de PIB qui vont vers la redistribution, j'ai du mal à imaginer quelle forme elle pourrait prendre. En revanche, si on veut creuser l'interrogation de Christian, mais on dépense beaucoup, mais est-ce qu'on dépense bien ? Est-ce qu'en réalité, toutes ces dépenses ont efficacité qu'elles mériteraient d'avoir ? Non mais, Christian, la question mérite d'être posée.
C'est l'argument classique des libéraux depuis 30 ans, donc ça ne m'étonne pas de le retrouver dans votre bouche.
À 33 points de PIB, moi je pense qu'on a le droit de se poser cette question, que c'est démocratique de poser la question. Et par ailleurs, si on regarde depuis le début du quinquennat, Il y a un plan pauvreté qui va être relancé d'ailleurs, je crois, en fin de semaine prochaine.
Ouais.
Qui va être relancé et sur lequel on était prêt à engager 8 milliards de plus en 4 ans. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait. Et par ailleurs, je continue de penser, le son que disait bien dans la bouche de Bruno Le Maire, que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est un emploi pour chacun. Et ça passe. Et là aussi, il y a des dispositifs, notamment, ça passe par l'emploi et ça passe par la formation. Je vous rappelle que dans le plan de relance, il y a un tiers des dépenses, un tiers des 100 milliards qui vont vers l'emploi, qu'il y a eu un plan d'investissement dans les compétences d'une taille jamais atteinte au début du quinquennat, le fameux PIC, pour former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi. On a les premiers éléments de bilan. Ce plan, il a touché 22% de gens qui venaient de zones en revitalisation rurale, 20% de gens qui étaient au RSA, 15% qui étaient issus des quartiers prioritaires de la ville, moins de 10% de ceux qui ont bénéficié de ce dispositif étaient bacheliers, et sur les premières évaluations qu'on a, qui datent de 2019, 69% des bénéficiaires étaient en emploi au bout de 6 mois. Donc, je pense qu'on peut aussi avoir de la protection sociale une vision dynamique, et je pense que la formation est le bon instrument, particulièrement dans la crise qu'on traverse, pour aider les gens à s'en sortir.
Bon alors, sur l'analyse sur la pauvreté, je ne suis pas sûre qu'on vous mette d'accord. Est-ce que sur cette étude qui a déjà fait beaucoup parler, qui est très intéressante, sur supprimer la réforme fiscale, en gros, du début du quinquennat...
Oui, parce qu'on n'a pas supprimé l'ISF.
Alors, on a supprimé l'ISF, mais on a mis l'IFI. Bon, ok, vous allez nous raconter ça. Bon, on a un deuxième bilan qui nous parle, on peut lire beaucoup de choses, mais qui nous parle d'abord peut-être des inégalités. C'est le sujet qui nous intéresse ce matin, Christian.
C'est pas une étude intéressante, c'est une étude très importante qui a été publiée cette semaine. Pourquoi ? Parce que le mois dernier, l'INSEE nous a dit les pertes de recettes fiscales qui sont liées à la transformation de l'ISF, je taxe toute la fortune, là simplement l'IFI, je taxe uniquement l'immobilier, ça nous fait perdre 3,5 milliards de recettes. Si vous rajoutez l'autre mesure très importante qui s'appelle le PFU, le prélèvement forfaitaire j'avoue que j'ai un peu de mal.
C'est difficile,
qui consiste à prélever uniquement 30% des revenus du capital quand vous touchez des intérêts, des dividendes, des plus-values. En gros, on perd 5 milliards. Le gain moyen, c'est 10 000 euros pour les plus riches. Pour les 100 plus gros contribuables, c'est 1,2 million d'euros de gain de pouvoir d'achat. Président des riches, c'est plus une étiquette, c'est une réalité. Mais, au moins, on pourrait se dire, ok, il renforce les inégalités, mais si cet ISF et si taxation des revenus du capital, ça détruisait l'économie. Bah tant pis, on paye ce coût de 5 milliards, mais au moins, on permet de gagner, on améliore le fonctionnement de l'économie.
C'était la promesse, quand même.
Ça, c'était la promesse.
On avait dit que c'était bon pour l'investissement.
Et ça, au-delà des statistiques, évidemment, quand vous baissez les impôts sur les riches, ça profite aux riches. L'étude de cette semaine, elle atomise complètement les arguments du gouvernement. C'est pour ça que c'est intéressant. Pourquoi ? L'ISF, on nous dit, les entreprises étaient tellement taxées qu'elles étaient obligées de distribuer des surcroîts de dividendes pour payer les impôts qui étaient liés à la taxation du capital. Maintenant qu'il n'y a plus d'ISF, normalement, et cette étude nous dit, l'impôt dû s'effondre de 80% avec la réforme. Normalement, il y a moins de distribution de dividendes. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, c'est faux. Est-ce que les riches s'en vont ? On a, deuxième résultat de l'étude, des patrons de PME, quand ils arrivent à la retraite, ils ont plus leur entreprise, c'est plus du bien professionnel. L'entreprise, ça devient du patrimoine, c'est taxé. Est-ce qu'on peut faire la différence entre ceux qui partent et ceux qui restent parce qu'ils étaient taxés ? Non, pas de différence. En fait, il n'y avait pas d'exil fiscal des patrons de PME qui ont accumulé de l'argent. Donc, on a cette étude qui nous dit tout ce que les libéraux nous disent contre l'ISF, c'est faux.
Alors,
on peut partir du même
Laurent
texte
Bigot.
Et en avoir deux lectures très différentes, cher Christian. Moi, j'y vois trois avantages au dispositif qui a été mis en place, tant qu'avéré par l'étude. Premièrement, et l'étude le dit, on a remis la France dans le rang, c'est-à-dire que on a remis la France à la moyenne des autres grands pays européens en matière de taxation du capital. En gros, on est à 4,7%. En point de PIB de taxation du capital en France, on reste très supérieur à ce qui se fait en Allemagne et en Italie, et trois fois même ce qui se fait par rapport à l'Allemagne. Pardon. Deuxièmement, Christian nous dit il y a beaucoup de dividendes qui sont versés. Heureusement. Et d'ailleurs, les dividendes, ça crée quoi ? Ça crée de la fiscalité. C'est-à-dire que, évidemment, le fait d'avoir sorti de l'argent des entreprises qui étaient des profits qui étaient thésaurisés, le fait de les avoir transformés en dividendes, ça permet cette année de faire 500 millions de recettes fiscales. Et il faut en tenir compte. Bien sûr, c'est important. Troisièmement, ce qui est attendu, et vous l'avez précisé, Alexandra, c'est comment est-ce qu'on dynamise l'épargne et l'épargne qui s'investit. D'abord, il y a une baisse des exilés fiscaux, qui est une tendance qui n'est pas seulement due aux mesures, et le rapport le montre bien, aux mesures de 2017, mais il y a une baisse tendancielle. Et pour la première fois, ça c'est un fait nouveau, c'est que le nombre de ceux qui reviennent est supérieur au nombre de ceux qui partent.
Donc ce que vous nous dites, c'est que ça ruisselle un peu.
Mais bien sûr, et du côté de la microéconomie, Quand on interroge le mouvement d'entreprises de taille intermédiaire, ils vous disent, nous, on voit quelque chose de formidable chez nos adhérents, hein, donc toutes ces ETI auxquelles on tient tant, il y en a 5000 en France, vous le savez, c'est qu'on a une augmentation des projets de transmission des ETI de 33% depuis 3 ans. Alors que précédemment, on ne cessait de voir des projets de transmission en diminution. Mmh. Donc on voit que ça stabilise l'actionnariat des entreprises familiales et c'est très nécessaire.
Alors l'étude dit complètement l'inverse. Enfin, moi je l'ai lu à l'inverse. Pourquoi ? Parce que quand vous aviez l'ISF, vous avez des possibilités de défiscaliser une partie de cet ISF en investissant dans les PME. Et l'étude nous dit que les gens qui sont riches n'investissent plus dans les PME
mais
pour profiter de cette défiscalisation. La suppression conduit à ce qu'il y ait moins d'argent pour renforcer le capital des entreprises françaises.
On n'y arrivera pas, vous ne serez pas d'accord. Mais est-ce que, si je vous pose une dernière question en quelques secondes, est-ce que vous serez d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose de plus aujourd'hui pour les plus démunis, Laurent ?
Oui, je pense
qu'on parle de la pauvreté, des inégalités.
Je pense qu'on peut être très très innovant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeunes. Et on doit pouvoir faire beaucoup plus sur les jeunes. Moi, j'ai moins en tête le RSA que la garantie jeune. Et j'ai évidemment, je pense aux étudiants. Je pense qu'il y a des dispositifs à prendre, d'aide sociale, mais aussi de prêts, qui pourraient être tout à fait innovants dans la période.
Christian.
Oui, augmenter le RSA, augmenter la prime d'activité, créer le RSA jeune. Et quand on a un plan de 100 milliards sur 2 ans et que 800 millions seulement pour les plus précaires, vraiment, c'est pas à la hauteur.
Bon, on aura peut-être les mesures samedi prochain qu'on pourra commenter ensemble.
Avec plaisir.
Avec plaisir. L'économie comme elle se passe ailleurs. Allez, on va sortir de France maintenant. On va parler, on a parlé des perdants de l'épidémie, on va parler des gagnants de l'épidémie. Les GAFA, direction les États-Unis.
Google, Amazon, Apple and Facebook have monopoly power and Congress must take action, they say.
Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondant de France Inter aux États-Unis. Les gagnants de l'épidémie, ce sont bien des entreprises américaines, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. On vient d'entendre leur nom, dont la valeur a explosé ces derniers mois. Mais ces géants de la tech ont peut-être des pieds d'argile. On a eu cette semaine, Pierre-Yves, un rapport très attendu au Congrès qui donne une idée de ce qui pourrait peut-être leur arriver après le scrutin de novembre. Ce serait la fin de leur toute-puissance.
Oui, le rapport de 449 pages par la commission judiciaire de la Chambre des représentants recommande d'imposer des changements structurels à Google, Amazon, Facebook et Apple pour que ces derniers ne puissent plus abuser de leur position dominante afin, par exemple, d'écraser leurs partenaires ou leurs concurrents. Alors le rapport va donner des idées de réforme du système antitrust, le système américain de surveillance de la libre concurrence. Si les démocrates remporte les élections le mois prochain, s'il remporte en particulier la majorité au Sénat, si Joe Biden devient président en janvier 2021, la probabilité d'aboutissement d'une réforme de l'antitrust l'an prochain va augmenter. L'idée implicite est de forcer Google à se séparer de YouTube, par exemple, ou Facebook à se séparer d'Instagram, mais c'est une idée radicale et elle ne fait pas aujourd'hui consensus. Il vaudrait mieux que cette réforme soit bipartite, elle pourrait par exemple, donner plus de pouvoir à la Federal Trade Commission pour combattre les abus de position dominante et empêcher, par exemple, les GAFA de faire des acquisitions qui systématiquement nuisent à l'innovation et à la concurrence.
Pierre-Yves, on comprend de ce que vous nous dites que ça n'est pas encore fait, mais quand même, d'ores et déjà, Google est particulièrement visé à Washington.
Oui, l'administration Trump est sur le point d'attaquer en justice Google pour abus de monopole sur ses activités de recherche et de placement de publicité sur le marché numérique. Le procès sera long, son issue incertaine. En cas de jugement défavorable à Google, Google ferait sûrement appel. Ça nous rappelle 1998, vous vous souvenez, lorsque l'administration Clinton voulait empêcher Microsoft de monopoliser la navigation sur Internet. Une des grandes clés dans ce débat américain est que la tradition américaine de l'antitrust ne vise pas à casser les monopoles simplement parce qu'ils sont grands ou parce qu'ils sont riches. Elle permet de sanctionner les monopoles si leur activité réduit les choix des consommateurs, pénalise l'innovation ou si elle fait monter les prix. Et sur la base de ces seuls critères, il est difficile de casser la domination des GAFA. Ces géants sont très innovants et souvent, ne l'oublions pas, leurs services sont gratuits.
Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Bon, Pierre-Yves Dugas, avec nous depuis Washington, merci à vous. Laurent Bigornier, Christian Chavagneux, les débatteurs dont n'arrête pas l'écho tous les samedis sur France Inter, merci à vous aussi. Dans 10 minutes, notre invité, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Mais avant de parler de la situation économique aux patrons des patrons, on va aller sur le terrain, voir ce qui se passe pour les entreprises et leurs salariés quand, malheureusement, le carnet de commandes se vide. Tenez, vous connaissez Jurançon ? Ça se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques, tout près de Pau. On n'a qu'à suivre la sirène.
Bonjour. Bon, ça fonctionne bien alors, apparemment.
Ça marche pas mal. Donc, Eric Greven, société AET. Je suis le directeur général d'AET. AET, c'est notamment les sirènes que vous entendez tous les premiers mercredis du mois. On a aussi des plus petits produits, comme ceux que vous voyez sur le chariot ici, qui sont des petites sirènes, des petits feux. Là, on est devant une centrale d'alerte.
Et donc ça, vous savez combien vous en fabriquiez avant le Covid et combien vous allez en fabriquer après ?
Dans une année à peu près normale, on va naviguer entre 120 et 150 coffrets. Sur une année Covid, on va se retrouver en dessous de 100. Donc quand l'industrie va mal, c'est compliqué pour nous, pas ricocher. Donc on a choisi justement le chômage partiel à partir de mars et la PLD à partir du 1er octobre. Il y a 27 personnes chez nous, dans les 3 mois à venir, les 27 personnes feront toutes au moins un peu de chômage partiel. Certains qui feront un jour, d'autres qui feront 4 jours. Donc je vous présente David, qui s'occupe de la production chez AET.
Bonjour David. Bonjour. Excusez-moi, je vous embête, alors vous êtes en train de travailler. Je voulais savoir combien de jours vous chômez par mois en ce moment.
Un jour de chômage par semaine. Donc ça fait 4 jours par mois.
Et vous savez combien ça vous fait perdre sur le mois ?
Non, pas vraiment en fait. Le salaire, il varie, étant donné qu'on pose aussi des RTT ou des congés. Donc tous les mois, c'est un peu la surprise de savoir quelle est la perte qu'on va avoir. Donc forcément, oui, c'est dur. Avec 2 enfants et ma femme qui ne travaille pas, c'est compliqué. Ouais. Puis au bout d'un moment, si ça descend trop, il faudra trouver une solution alternative, de toute façon, parce qu'il faut bien manger à la fin du mois.
Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Est-ce que vous vous rappelez de cette petite phrase de François Mitterrand en 93 ? Eh bien en fait non, on est justement en train d'essayer autre chose, de forger de nouveaux outils. Et Eric Greven, qui donc fabrique des sirènes, il vient de nous en parler et ça s'appelle par exemple l'APLD, activité partielle de longue durée. L'idée pour l'employeur, c'est de conserver ses salariés et donc leurs compétences, même s'il n'y a plus assez de travail pour un temps plein. Il faut donc organiser le chômage et se mettre d'accord dans l'entreprise. Ça, c'est la condition. Ensuite, le salarié va recevoir une indemnisation et l'employeur une allocation. Aujourd'hui, des accords d'entreprise pour l'APLD, on en compte déjà plus de 300. Le premier grand groupe qui a signé, c'est Safran dans l'aéronautique. Alors comment ça marche cette APLD ? Est-ce que là, nous tenons une arme puissante contre le chômage ? Allez, on suit notre reporter Caroline Pommès de retour en région parisienne.
Donc là, on rentre au laboratoire d'essai des trains d'atterrissage de Safran sur le site de Vélizy. Bonjour.
Bonjour.
Vous appelez comment ?
Saïd Idali.
Et donc vous faites quoi ici ?
Je suis ingénieur engineering d'essai. Ici on fait des essais de freinage pour tous les avionneurs, donc civils ou militaires, également sur des hélicoptères.
Donc là vous travaillez aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes là toute la semaine ?
Je suis là de lundi à jeudi et le vendredi est chômé. Donc pour éviter que les gens aient des jours de chômage différents, on chôme tous le vendredi.
Et avant l'APLD, c'était le chômage partiel pour vous ?
J'ai eu plusieurs phases, donc une phase de chômage à 100%. Ensuite, progressivement, je suis revenu à 100% d'activité.
Donc, combien vous avez perdu sur tous ces mois-ci ? Est-ce que vous arrivez à chiffrer un peu la perte sur votre salaire ?
Aujourd'hui, je suis à 97% de mon salaire net.
Ça vous convient, cette situation ?
C'est pas que ça me convient, c'est que je l'accepte. Pour le bien de la société et du groupe, j'accepte la situation.
Mais la situation de Saïd est certainement différente de celle de son collègue qui travaille dans le service juste à côté. Safran a signé un accord général pour tout le groupe, mais chaque société, chaque site l'adapte à sa situation. C'est du sur-mesure. Stéphane Dubois, le directeur des ressources humaines du groupe, le voit comme un outil très flexible.
Le niveau de la PLD pourra varier entre probablement 5% et 50%.
Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui auront un jour chômé, un jour travaillé, et d'autres qui en auront beaucoup moins.
Oui, alors le 50% c'est vraiment l'exception, puisque nous n'avons que 5 sociétés qui vont y recourir. Donc globalement, nous aurons une moyenne de 20% de recours à l'activité partielle par mois. Alors, en moyenne, effectivement, ça veut dire que les collaborateurs seront à 80% au travail.
L'État vous aide à hauteur de combien ? Est-ce que ça se chiffre, ces jours de chômage
payés en partie par l'État ?
Écoutez, pour le moment, c'est évidemment difficile de vous donner un chiffre précis, tout simplement parce que nous mettons en place ce mois-ci la PLD, et donc difficile de dire exactement ce que cela sera. En revanche, on connaît bien le niveau de remboursement par l'État, puisqu'il est de 70% du brut, et que de ce point de vue-là, on s'inscrit dans une vraie continuité par rapport à ce qui était fait dans l'activité partielle classique.
Ça représente beaucoup d'argent. Est-ce que vous, vous êtes engagé à prendre des contreparties sur cette aide ?
Oui, mais nous avons pris des contreparties en matière d'emploi, donc nous allons continuer à recruter. Il y a la question du dividende qui sera observée par le conseil d'administration le moment venu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la question du montant du dividende qui sera distribué sera posée aux membres du conseil d'administration qui pourront décider souverainement de ce qu'ils souhaiteront faire. Il y a bien entendu des mesures de modération salariale qui s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs, mais tout particulièrement aux cadres dirigeants qui, sur des aspects retraite, d'épargne salariale, sur les aspects de l'incentive de court terme ou de long terme, seront très impactés dans le cadre de l'accord que nous avons signé.
Dans les grands groupes, les syndicats ont négocié pendant des semaines. Chez Safran, c'est signé pour 2 ans, avec des mises au point tous les 6 mois. Daniel Verdi, délégué syndical CFE-CGC, était autour de la table pendant les négociations.
Allô ?
Oui, monsieur Verdi, Caroline Pommès. Où est-ce que je peux vous trouver ?
Je suis au local syndical. Vous verrez, vous passerez vers l'arrière du restaurant d'entreprise.
D'accord, j'arrive. Donc je vois sur votre bureau, là, ce sont des tracts CFE-CGC sur l'activité partielle de longue durée. Et on voit, donc c'est bien écrit, hein, interdit les licenciements économiques et les délocalisations. Ici, c'est sûr qu'à Safran, il n'y aura pas de licenciement.
Pas pendant 2 ans. Après, je n'ai pas la boule du cristal, mais c'est sûr que pendant 2 ans, c'est lié par l'accord. Donc jusqu'en septembre 2022, il n'y aura pas de licenciement. Pour raison économique chez Safran.
C'est une situation inédite. Vous en pensez quoi de ce dispositif des salariés au chômage partiel sur une longue durée ?
Si ça préserve l'emploi, c'est quelque chose de bien. Pour le salarié, ça coûte bien sûr un peu de salaire, puisque grosso modo, pour quelqu'un qui sera à 40% d'inactivité, sur le salaire net, ça reviendra à peu près à 92%. Donc c'est vrai qu'il a une perte de 8%.
8% de salaire en moins, ça représente combien à peu près ?
Ça dépend des salaires, mais bon, avec un salaire moyen de 1 500 euros net, donc ça fait, allez, on va dire, un peu moins de 250 euros.
Ce qui n'est pas rien, 250 euros par mois.
Ce n'est pas rien, mais perdre son emploi, c'est quelque chose. Et quand même, l'accord permettait de préserver non seulement 6 000 emplois via la PLD, mais aussi 6 000 autres emplois, soit avec les mesures d'âge, et aussi mettre en place de la mobilité et puis la formation.
Donc ce dispositif d'activité partielle de longue durée avec maintien d'une partie du salaire, ça n'avait jamais été pensé comme ça. En 2008, après la crise, il y a eu du chômage partiel mais sur une période plus courte. Et à l'époque, les entreprises françaises l'ont boudé. Cette fois-ci, le gouvernement estime que ça coûtera presque 7 milliards d'euros. Mais pour quel résultat ? Est-ce que c'est vraiment le bon mécanisme contre le chômage ? Je suis allée demander à Nadine Levrato, qui dirige le labo Economics à l'Université Paris-Nanterre.
On a un effet direct à court terme, dans le sens où les personnes qui sont couvertes par la PLD, eh bien évidemment, ne vont pas aller alourdir les statistiques du chômage. Maintenant, il faut voir ce que l'on fait, ce qu'il advient de ces personnes. Est-ce que on va profiter de cette période de latence pour réorienter l'activité des entreprises ? Dans ce sens-là, former les personnes pendant cette activité partielle. Donc, il s'agit d'emboîter les dispositifs, c'est-à-dire APLD, formation continue et également redéploiement d'investissement des entreprises pour que cette période de crise soit finalement mise au profit de la transition. Alors, écologique en particulier, hein, puisqu'elle fait partie des piliers du plan de relance. Donc c'est tout ça qui fera qu'il y aura peut-être un effet sur le chômage à long terme, mais ce ne sera pas que du fait de la PLD, à moins que l'État se pose comme financeur des salaires de manière pérenne, ce qui, je pense, n'est ni envisageable ni souhaitable.
«
Contre le chômage, ce qu'on n'avait pas encore essayé, c'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et notre invité ce samedi, c'est le président du MEDEF. Bonjour Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Bonjour.
Vous avez écouté le reportage et vous m'avez dit non, mais en fait ça va encore beaucoup plus vite que ce que vous avez dit, Alexandra Ben Saïd, c'est ces accords sur l'activité partielle de longue durée.
Oui, on est à 1600 accords signés, 6 branches qu'on signait, donc c'est un dispositif qu'on a nous proposé avec la métallurgie, que les syndicats ont adopté, qui est inspiré, il faut le dire, d'un système allemand pendant la crise de 2008, et qui a pour but de préserver l'emploi et les compétences en partant du principe, évidemment, j'espère pas se tromper, que cette chute d'activité, elle aura une fin. Que l'aéronautique va repartir, que les secteurs vont repartir.
Et là-dessus, donc, vous êtes optimiste ?
Écoutez, c'est un problème médical, tout simplement. C'est le jour où on a un vaccin, c'est le jour où l'épidémie s'arrête. Je suis pas très compétent pour vous répondre à cette question. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on détruit des emplois, d'abord, ça coûtera plus cher à la collectivité, parce qu'il faut pas oublier que dans la PLD, l'entreprise paye une partie du salaire. L'État aussi, bien sûr. Chacun fait un effort, y compris derrière le salarié qui va toucher moins. Permet de former les salariés, ouais. Et ça garde, si vous voulez, les forces vives de l'entreprise. Donc, ça me paraît être le bon système. Alors, évidemment, c'est pas un système éternel et on préférait qu'il n'y ait pas d'APLD, en réalité. Et qu'il y ait de l'activité à plein. Mais c'est pas possible dans certains secteurs aujourd'hui.
Et cependant, les économistes, donc il y a ce filet de sécurité, mais les économistes nous disent, attendez, vous n'avez encore rien vu, il va quand même y avoir le chômage qui va exploser, une vague de suppression de postes, il va quand même y avoir, et surtout à partir de ce début octobre, une vague de défaillance d'entreprises. Est-ce que vous, qui avez en effet des adhérents sur le terrain, c'est ça qui vous remonte ?
Je sais pas. Je vais vous dire, honnêtement, je ne sais pas. Et je crois que c'est la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui. Cette crise, elle ne ressemble à aucune autre. C'est pas le modèle classique de la crise du capitalisme avec un excès de spéculation qui fait une crise financière. C'est un modèle où l'État, pour des bonnes raisons, les États ont arrêté l'économie. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer.
Vous ne croyez pas aux prévisions économiques ?
La seule chose que je constate, c'est que jusqu'à présent, les prévisions catastrophiques de certains économistes ne se sont pas réalisées. Mais en disant ça, je le dis avec beaucoup de modestie. Et je crois que je dis ça devant deux économistes brillants, donc je dis ça avec prudence. Mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Pour le moment, les plans sociaux, il y en a plus que l'année dernière, mais ça ne représente que... Alors, évidemment, pour les gens concernés, c'est un drame, mais que 65 000 suppressions d'emplois à l'échelle du pays.
Mais il y a une vague silencieuse qui n'est pas les plans sociaux, n'est-ce pas ?
Alors, bien sûr, les vrais plans sociaux, si je veux dire, enfin, je peux pas dire comme ça, c'est la non-embauche. Soit la non-embauche de jeunes, soit le non-roulement de CDD ou d'intérim. Sur les jeunes, je veux pas être là aussi trop optimiste, mais les premières remontées qu'on a sur le plan jeune, les 8 000 euros d'aide à l'apprenti. J'étais hier sur un bus de l'apprentissage là à Grigny. On a l'air de plutôt marcher. Alors, il y a des secteurs qui vont pas recruter d'apprentis cette année, type hôtel, café, restaurant, ou en tout cas beaucoup moins pour des raisons que j'ai pas besoin d'expliquer. Mais par exemple, le bâtiment nous dit, en première approche, on va probablement pouvoir atteindre le score de l'année dernière, peut-être même plus. Donc, si vous voulez, le pire est pas certain, même si l'avenir est très incertain.
Le gouvernement a annoncé cette semaine un élargissement de cet énorme filet de sécurité publique. Élargissement, par exemple, du fonds de solidarité pour les indépendants et les artisans. Prise en charge à 100% approfondissement pour le chômage partiel. Est-ce que là, vous considérez que ces ajustements, ils sont au bon niveau ?
Oui, c'est une chose qu'on avait demandé. En fait, il y a deux choses. Il y a le problème de niveau. Par exemple, c'était plafonné à 2 millions de chiffre d'affaires. Là, maintenant, c'est jusqu'à 50 salariés sans plafond de chiffre d'affaires, parce qu'il y avait une espèce de trou dans la raquette pour des grands restaurants, enfin grands au sens taille de restaurants, des hôtels, etc. Et puis, de l'autre côté, il y avait un problème pour tous les secteurs connexes de ces métiers qui sont arrêtés. Il y a les fermetures administratives, mais il y a aussi la fermeture économique. Quand vous avez une entreprise, je pense à une en particulier à Chambéry, qui fait de livre du café aux hôteliers et aux restaurateurs, ben vous n'êtes pas fermé, mais en fait, en réalité, vous n'avez plus d'activité. Donc, c'est le bon filet. Là aussi, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que tout ça s'est fait dans une logique où on se dit, ça va repartir. Parce que sinon, effectivement, le niveau d'argent qui est mis peut paraître démesuré. Mais il faut partir du principe qu'on est dans un épisode très très long, très très douloureux, mais qui va se refermer à un moment.
À un moment, ça peut être 2021. En tout cas, On ne sait, qu'est-ce que vous en pensez?
La vitesse de reprise là, de la consommation au mois de mai montre que pour toute l'activité de proximité, ça peut repartir très vite. Ce qui est plus compliqué, c'est tous les secteurs durablement touchés avec des transformations sous-jacentes. L'aéronautique, on voit bien qu'il y a la crise liée au Covid, mais il y a des choses un peu plus fondamentales. Et donc, on se dit, l'aéronautique, elle va être remise en question d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est toujours pareil. Il y a une crise, il y a des accélérateurs de transformation. L'automobile, c'est un peu pareil. Donc, en répondant à votre question, je sais pas. Hein, je suis désolé, je ne sais pas tout.
Cependant, est-ce que vous ne savez pas tout, mais est-ce que vous entendez les critiques sur la stratégie? Alors, par exemple, des cafetiers, des restaurateurs. Est-ce que vous entendez leur ressentiment? Ils disent, il y a une inégalité de traitement. Qu'est-ce que vous leur dites à eux?
Le problème, il est là, si vous voulez. Nous, on n'a pas la compétence pour juger des mesures sanitaires. Par contre, nos adhérents ont beaucoup de mal à comprendre qu'on s'entasse dans un TGV d'un côté et qu'on puisse pas... que les distances dans les restaurants rendent les choses très compliquées.
Ah bah Olivier Véran, pourtant, il a répondu là-dessus. Sur le TGV ou sur le transport, il le justifie.
Oui, mais si vous voulez, ce qui est vrai, les salles de sport, je prends cet exemple-là, qui ont fait d'énormes efforts, investis dans des cloisons en plexiglas qui nettoient les appareils, etc., ont du mal à... Et il y a très peu de clusters dans ces endroits-là. Je fais une petite parenthèse quand même. Les entreprises, ce ne sont pas des clusters. Il y a eu quelques problèmes dans les abattoirs, mais globalement, il y a très très peu de clusters en entreprise parce que les gens ont fait d'énormes efforts, des investissements
pour qu'on puisse
travailler en sécurité. Et donc, il y a parfois, dans certains cas, notamment les restaurateurs, un sentiment d'incompréhension ou d'injustice.
Et qui est justifié, c'est ça que le patron des patrons est en train de dire.
Si vous voulez, l'injustice, c'est toujours très difficile à mesurer parce que c'est à la fois un sentiment et une réalité. On pourrait parler de philosophie. Mais ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, ça n'est pas compris. Et on a bien vu à Marseille la réaction de colère sur place. Le gouvernement a recadré un peu en autorisant les restaurants et pas les bars. Je pense qu'il faut continuer à travailler. En fait, j'ai poussé le débat. Il faut qu'on trouve le moyen de travailler, de vivre, de produire sous le Covid. Et donc, dans chaque secteur, il faut imaginer un protocole qui puisse permettre de continuer s'il y a des clients, s'il y a des gens qui veulent. Et pour les salles de sport, par exemple, il y a des clients.
Geoffroy Roux de Bézieux, je vous emmène sur le débat de l'Assemblée qui commence lundi, le débat sur le budget. Vous l'avez dit vous-même, 468 milliards déjà mobilisés pour soutenir les entreprises, c'est énorme. Des parlementaires veulent des contreparties sociales, environnementales, sur l'emploi. Qu'est-ce que vous leur dites?
Alors bon, d'abord sur les 460 milliards, il y a les 300 milliards de garanties de l'État qui ont été consommés à moitié, donc c'est pas tout à fait...
Tout n'est pas décaissé, tout n'est pas d'argent sonnant et trébuchant.
Il y a beaucoup d'argent. Ben, c'est simple, si vous voulez. Le plan, il est finalement conçu avec des contreparties presque inhérentes. Je vais prendre deux exemples. Quand vous embauchez un jeune et que vous touchez les 8000 euros ou les 5000 euros suivant la scolarité, la contrepartie, c'est l'embauche d'un jeune. Et donc, elle est par nature dans l'aide. Quand, alors ça n'a pas encore démarré, mais les entreprises qui vont déposer un dossier pour la décarbonisation, relocalisation d'une activité, la contrepartie, elle est dedans.
Alors, ce qui n'a pas de contrepartie, ce sont les 20 milliards d'impôts de production, parlons-en.
Alors, c'est 10 milliards, c'est pas 20 milliards, c'est 10 milliards par an. Oui, mais à ce moment-là, on peut dire pour 5 ans, ça fait 50 milliards. Je ne comprends pas très bien le raisonnement. Mais ces contreparties, oui, pour une raison simple, c'est qu'elle est unilatérale. Et donc, donner la moyenne, dans les PME, ça fait 13 700 euros de baisse. 13 700 euros pour une boîte qui marche très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'en sais rien, peut-être investir. 13 700 euros pour une boîte qui est en difficulté dans la restauration, ça va diminuer sa perte. Donc je ne sais pas quelle contrepartie nationale et automatique. Si vous voulez demander...
Vous n'êtes prêt à aucune contrepartie?
Veut dire quoi, une contrepartie? Chaque chef d'entreprise va utiliser cette baisse d'impôt au mieux de ses possibilités et en fonction de son secteur. Dire, comme j'ai entendu, il faut que toutes les entreprises se lancent dans une trajectoire de décarbonation. Oui, elles le font à leurs moyens, à leur échelle, mais avoir un barème, je vais pas dire une obligation nationale, se décarboner quand on est un restaurateur, se décarboner quand on est un métallurgiste, ça veut pas dire la même chose.
Est-ce que ça va créer 300 000 ou préserver 300 000 emplois industriels? C'est ce qu'a déclaré Christophe Castaner, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. C'est ma dernière question.
Je ne sais pas, je suis désolé, répondre à cette question. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout comment l'économie va réagir dans les mois qui viennent. Ce que je sais simplement, c'est que si on veut de la relocalisation du Made in France, rendre le Made in France compétitif par la baisse des impôts de production, c'est une bonne idée.
Et sans contrepartie, on a compris. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, merci d'avoir été sur France Inter.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Hervé, donc un habitué des bars parisiens, comme vous l'expliquez, vous a écrit ce matin, il s'inquiète pour les serveuses et les garçons de café qui ne touchent plus de pourboire. Est-ce que ce manque à gagner est pris en compte dans le chômage partiel?
Eh bien Hervé, la réponse est oui, la rémunération variable, donc tout ce qui touche aux commissions, aux pourboires, aux primes de pause, d'assiduité, d'ancienneté, entre dans le calcul de l'indemnité que recevra une serveuse en chômage partiel. En fonction de la présence du salarié dans le bar ou le resto, il s'agit de faire une moyenne horaire de tous ses à côté sur les 12 derniers mois. En revanche, ces employés peuvent faire une croix, mais c'est vrai pour tous les secteurs, sur tout ce qui est prime d'intéressement, heures supplémentaires, indemnités de frais professionnels. Maintenant, ça c'est la théorie, Hervé. Dans les faits, beaucoup de restaurateurs et de bistrotiers ignorent qu'ils peuvent inclure les pourboires dans leur demande d'activité partielle, quand d'autres petits malins, eux, ont bien compris qu'ils pouvaient gonfler la note. Contrôler la petite monnaie que laissent les clients satisfaits sur la table est un exercice assez approximatif.
Est-ce que le pourboire est une part significative des revenus de ces serveurs, Sandrine ?
Alors, c'est très variable. Ça dépend du midi, du soir, des établissements, des quartiers touristiques. Les Nord-Américains ont plus tendance à donner que les Français, parce que c'est obligatoire chez eux et optionnel chez nous. Mais bon, cela étant, une vieille étude de 2016 nous dit que 4 clients sur 10 continuent de laisser un petit quelque chose dans la coupelle. Il faudrait bien sûr refaire la même enquête après le Covid, parce que les banques ont constaté une chute drastique des retraits en espèces. Non, évidemment, les garçons de café ou les barmaids doivent surtout compter sur leur fixe. Avec l'activité partielle de droit commun, ils continuent de toucher 84% de leur salaire net. Pour les 2 ans à venir, le secteur des hôtels, cafés, restaurants est en train de négocier un accord d'activité partielle de longue durée. Au-delà des pourboires, c'est tout l'avenir de la branche qui se joue. 1 million d'emplois sont concernés et selon ces professionnels, 15% des établissements pourraient mettre la clé sous la porte.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.